Bonjour à tous. Donc, merci de m'avoir invité à partager avec vous sur les méthodes diagnostiques des tuberculoses résistantes. Donc, je vais essentiellement vous parler des tests génotypiques pour le diagnostic des tuberculoses résistantes. Et je voudrais juste commencer sur une généralité sur les tests diagnostiques, quels qu'ils soient. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est de résistance. Donc, tous ces tests, les performances de ces tests, la valeur prédictive de ces tests, dépendent énormément de la prévalence de ce que vous recherchez dans la population sur laquelle vous appliquez ce test. Donc ça vous est montré sur cette figure. Alors comment est-ce qu'on pointe? Bon, peu importe, je vais utiliser ça. Ce que vous voyez ici, c'est que si vous voulez avoir une valeur prédictive supérieure à 99%, c'est-à-dire une quasi-certitude que le test vous donne la bonne réponse, eh bien il faut que la prévalence de la maladie que vous recherchez soit quasiment supérieur à 50%. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui n'arrive quasiment jamais. Dans les autres cas de figure, si vous avez une prévalence qui est, je dirais, correcte, hein, de l'ordre de 10%, eh bien, ce que vous avez, c'est une valeur prédictive supérieure à 90%. Donc ça, c'est une généralité des tests diagnostiques. Ils sont extrêmement dépendants des prévalences, et j'en remontrerai des exemples après. Alors, pour ce qui est des tests diagnostiques des résistance. Les tests diagnostiques classiques sont les tests phénotypiques, donc c'est ce qu'on appelle classiquement un antibiogramme. On fait pousser Mycobacterium tuberculosis en présence d'antibiotiques, et la sensibilité ou la résistance ont été fixées dans les années 60 sur des critères cliniques de succès ou d'échec du traitement. Donc ces tests sont très robustes. Leur principale limite, vous la connaissez, ils dépendent de la vitesse de croissance de Mycobacterium tuberculosis, et donc les résultats peuvent prendre plusieurs semaines, 1 à 2 mois. Donc c'est dans ce contexte que les tests génotypiques ont été développés, et l'idée étant qu'on va étudier les gènes impliqués dans la résistance aux antituberculeux. Donc évidemment, le principal intérêt, c'est la rapidité. Hein, on est sur une réponse qui va se compter en jours, voire en heures. Il y a bien sûr deux conditions indispensables. C'est de connaître les gènes impliqués dans la résistance. Si on ne les connaît pas, on ne peut pas développer ces tests. Et un peu plus compliqué, et je vais en reparler après, il faut savoir pour chaque gène quel est l'impact des mutations sur la résistance, et ça c'est quelque chose qu'on a découvert un peu récemment et qui complique un peu les choses. Alors, je vais parler bien sûr que de tests commercialisés. Donc je dirais que les deux principaux tests commercialisés sont d'une part les tests MTBDR développés par la firme Ayn, et XPER-MTB-RIF développés par Cepheid. Donc pour ce qui est de MTBDR, c'est à gauche ici, il y a besoin d'un laboratoire de biologie moléculaire. Donc on va faire une amplification des gènes, soit à partir d'une culture, soit à partir d'un prélèvement, et on va faire une hybridation sur une bandelette. Et vous voyez ici l'exemple d'une bandelette avec le gène RPOB pour la rifampicine. Toutes les bandes ici représentent des bandes sauvages, c'est-à-dire le gène normal, et aucune bande résistante n'est allumée. La souche est sensible à la rifampicine. La deuxième bande ici, vous voyez qu'il manque une bande sauvage. Hop là. Il manque une bande sauvage. Et il y a une bande résistante qui est apparue, c'est une souche résistante à la rifampicine. D'accord ? Donc c'est comme ça que ça se lit. Et je dirais que la limite en pratique, c'est que parfois il y a des bandes d'intensité variable qu'on ne sait pas très bien interpréter. Le Cepheid, alors là, ça c'est vraiment, je dirais, la PCR pour les nuls. On prend le prélèvement, on le met dans un système d'extraction pendant à peu près un quart d'heure, on met la cartouche dans la machine, et au bout de moins de 2 heures, on a le résultat avec un système d'amplification en temps réel. Donc ce test, lui, ne regarde que le gène RPOB, mais je dirais qu'en termes de performance, vous verrez, il n'est pas mieux que les autres, mais il est hyper simple et très rapide, et donc c'est le moyen d'avoir une réponse pour la rifampicine dans les 2 heures. Alors, quel gène regarde ces tests commercialisés? Donc le gène RPOB pour la rifampicine, les tests MTBDR+, et XPER-MTB-RIF. L'isoniazide, c'est uniquement le test MTBDR+, avec les gènes 4G et INHA. Et après, c'est le test de seconde ligne de Ayn, MTBDR-SL, qui va regarder le gène JIRA pour l'équinolone, le gène RRS pour les aminosides de réserve, amikacine, canamycine et capriomycine, et le gène EMBB pour l'étambutol. Alors, quelles sont les performances de ces tests? J'ai résumé sur ce tableau les résultats des méta-analyses. Il y a eu énormément d'évaluations, donc maintenant on a une idée à peu près correcte. Les performances sont excellentes pour la rifampicine, avec une sensibilité, une spécificité proche de 100%. Donc que ça soit par un test ou un autre. Pour l'isoniazide, les fluoroquinolones, l'amikacine et la capreomycine, les performances sont bonnes, avec une sensibilité de l'ordre de 80%, et elles sont médiocres pour la canamycine et l'étambutol, avec une sensibilité inférieure à 80%, et y compris pour l'étambutol, une spécificité qui n'est pas bonne, et c'est tellement pas bon que dans la nouvelle version de ce test qui vient de sortir et qui n'est pas encore évaluée, Hein a retiré l'étambutol pour essayer d'améliorer plutôt les autres antibiotiques. Donc voilà, je dirais ça, c'était pour un peu des généralités. Après, quel test est-ce que vous allez utiliser dans la vraie vie? Eh bien, en fait, c'est principalement les tests diagnostiques de la résistance à la rifampicine. Alors, pourquoi la rifampicine? Parce que c'est l'antibiotique clé du traitement de la tuberculose. Et puis, parce que pratiquement, dans 90% des cas, quand on a détecté un mutant résistant à la rifampicine, on a en fait détecté une souche multirésistante, car dans 9 cas sur 10, cette résistance à la rifampicine est épidémiologiquement associée à une résistance à l'isoniazide. Donc en fait, c'est un tirage qui permet de trouver les multirésistants. Donc c'est quasiment tout le temps vrai qu'on fait le diagnostic de la multirésistance, à part, et c'est quand même une exception notable, chez les sujets VIH+, où là, la monorésistance à la rifampicine, c'est-à-dire sans résistance associée à l'isoniazide, est assez fréquente. Et donc là, il se peut qu'en fait, on ait diagnostiqué une monorésistance à la rifampicine. Donc comment est-ce qu'on fait ce diagnostic? Donc c'est l'analyse du gène RPOB, qui est la cible de la rifampicine. Et avec quoi? Eh bien, soit une culture, soit un prélèvement barre plus, mais ça peut aussi marcher sur des prélèvements barre moins, même si ça marche moins bien. Et donc, je vous ai dit, les tests, principalement MTBDR+, et XPR-MTBDRIF. Donc ça, j'y reviendrai tout à l'heure dans un arbre diagnostique, c'est vraiment la clé du traitement moléculaire et c'est le plus diffusé dans le monde. Donc maintenant que je vous ai dressé les grandes lignes du diagnostic moléculaire, je voudrais vous souligner quelques limites, parce que ces limites, vous allez les voir dans votre pratique, vous allez être surpris de discordance, ça va vous énerver, et au moins si vous avez ça, vous saurez que ces choses-là peuvent arriver. Donc première limite, je vous l'ai dit tout à l'heure, les performances de ces tests dépendent des prévalences de la résistance dans la population. Donc je vais vous donner deux exemples. Est-ce qu'un test qui a répondu mutation RPOB est toujours synonyme de multirésistance? Donc mettons qu'on ait un test qui a une sensibilité de 100%, ce qui n'est pas le cas de ces tests, mais mettons que ça soit 100%, avec une spécificité de 98%, ce qui est à peu près ce qu'on a. Une fois qu'on a dit ça, quelle est la valeur prédictive de résistance du test dans la population? Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, ça dépend de la prévalence de la résistance. Eh bien, vous voyez ici, je vous présente sur ce tableau, en fonction de la prévalence de la résistance à la rifampicine dans la population, 30, 9 ou 2%, la valeur prédictive du test, 94%, 80%, 50%. La colonne de droite, avec une valeur prédictive de 50%, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une chance sur deux que ça soit un vrai positif, une chance sur deux que ça soit un faux positif. C'est-à-dire qu'en gros, on n'est pas plus avancé après avoir fait le test qu'avant. Eh bien, ça, en France, c'est un patient qui n'a pas d'antécédent de traitement et qui n'a aucun facteur de risque de résistance. D'accord? Donc typiquement, dans cette population, on a une forte chance de faux positifs. Donc vous voyez, la prévalence de la valeur prédictive du test dépend de la prévalence de la résistance. A l'inverse, est-ce qu'un test qui ne répond pas de mutation peut se tromper? Et là, je prends l'exemple de l'isoniazide. Et je prends l'exemple de l'isoniazide parce que la sensibilité est un peu moins bonne, hein, je vous ai dit de l'ordre de 85% tout à l'heure. Et donc on a fait ici une simulation en fonction de la prévalence de la résistance dans la population, la prévalence de la résistance à l'isoniazide, donc ici moins de 5%, ici de l'ordre de 10, 20, etc. Et vous avez les chiffres qui sont en haut des colonnes bleues, qui sont le nombre de résistants à l'isoniazide qu'on va avoir manqué pour 100 tests réalisés. Et donc vous voyez qu'à la colonne qui est complètement à gauche, avec moins de 5% de résistance, on va en manquer moins de 1. S'il y a de l'ordre de 10% de résistance, on en manquera 1 pour 100 tests, et etc., ça augmente. Donc là encore, la valeur prédictive plutôt négative, ou prédictive de sensibilité, eh bien, elle va diminuer au fur et à mesure que la résistance augmente. Hein, évidemment, les deux vont dans des sens différents. Donc ça, c'est à connaître. Et il faut connaître la prévalence de la résistance dans la population sur laquelle on applique le test. Alors, deuxième limite que je voulais vous souligner, et c'est des limites qui sont là pour les tests génotypiques, mais aussi pour les tests phénotypiques. Et je dirais même que c'est la pratique des tests génotypiques qui nous a fait découvrir ces limites. Il y a des bacilles résistants qui sont en fait des bas niveaux de résistance qu'on a du mal à mettre en évidence. Et je vais prendre un exemple qui est assez connu, qui a été décrit par beaucoup de laboratoires, mais auquel on était confronté comme d'autres, et je vous raconte à travers un cas clinique. Donc en juillet 2012, une femme est prise en charge pour une tuberculose pulmonaire. La souche est résistante à l'isoniazide, le test MTBDR+ met en évidence une mutation dans le gène 4G et pas de mutation dans le gène RPOB. Donc au début, elle a eu une quadrithérapie standard, hein, isoniazide, rifampicine, pyrazinamide et tombutol. On relaye par un traitement sans isoniazide. Et puis en octobre 2012, elle fait une fracture du pied qui ne va pas bien évoluer avec une fistulisation. Le traitement antituberculeux continue toujours sans isoniazide. Un an après, elle a toujours mal au pied et elle a des abcès dans le pied. Donc elle finit par être opérée en janvier 2014 avec une souche de Mycobacterium tuberculosis qui va être retrouvée au niveau de cette fracture. Quand on fait les tests moléculaires de résistance, on retrouve la résistance à l'isoniazide de la souche initiale pulmonaire, mais on retrouve aussi dans le gène RPOB une absence d'hybridation avec la sonde sauvage 8. Et quand on fait un séquençage, on voit que ça correspond à une mutation L533P, donc c'est une souche multirésistante. Donc à ce moment-là, on s'est dit, en fait, cette dame a sélectionné un clone multirésistant dans son pied, probablement parce qu'on n'a peut-être pas rajouté assez de choses dans ce traitement. Mais on s'est quand même posé des questions, et on a repris la souche du départ, celle qu'on avait rendue sensible à la rifampicine, et on a fait un séquençage RPOB sur la souche du départ, et en fait, cette mutation, elle existait déjà au départ. Et elle n'avait été ni vue par notre antibiogramme phénotypique, ni vue par le test moléculaire MTBDR+. Alors quand on a vu ça, on a repris toutes les souches qu'on avait eues qui avaient cette mutation leucine 533 proline, L533P, et sans regarder dans le détail, aller directement à la conclusion, le test MTBDR+ n'a mis en évidence de cette mutation que dans 3/4 des cas, c'est-à-dire dans 1/4 des cas, il l'a loupé, mais l'antibiogramme phénotypique, il avait loupé la résistance, il avait manqué cette résistance dans 1 cas sur 2. Donc vous voyez que nos deux tests de référence quotidien se retrouvent en échec. Alors comment se fait-il que le test phénotypique n'arrive pas à repérer cette résistance? Eh bien c'est très simple, il y a des mutations qui confèrent des hauts niveaux de résistance, des niveaux intermédiaires de résistance, et puis il y a des mutations qui confèrent des bas niveaux de résistance. Et c'est singulièrement le cas de cette mutation, leucine 533 proline, qui confère un bas niveau de résistance et donc qui peut être manqué par l'antibiogramme. Alors ça a été montré par d'autres études, donc je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais il y a d'autres études qui ont montré que cette mutation peut être manquée par l'antibiogramme. Le problème, c'est qu'une de ces études, c'est celle de gauche, elle a aussi montré qu'il y a plus d'échecs de traitement chez ces patients. Donc c'est des bas niveaux de résistance, mais qui ont un vrai impact sur le traitement, qui réduisent l'efficacité du traitement. Donc vous voyez là, typiquement, on découvre ces bas niveaux et pour lesquels on peut être un peu en difficulté pour les mettre en évidence. Alors c'est des choses qui sont relativement rares, mais qui ont été décrites maintenant par des laboratoires un peu partout en Europe. Alors, autre et dernier exemple de diversité de l'impact des mutations sur la résistance, les fluoroquinolones. Donc les fluoroquinolones, c'est des mutations dans le gène JIRA, le gène de l'ADN gyrase. Et alors il y a la même chose que pour la rifampicine, des diversités des niveaux de résistance. Donc vous voyez ici des CMI qui vont de 1 à 8 mg par litre, sachant que le pic sérique de la moxifloxacine, qui est l'antibiotique testé ici, est de 3 mg par litre. Vous voyez qu'il y a des bas et des hauts niveaux de résistance. Mais ça, je vous l'ai déjà décrit. Plus intéressant là-dessus, vous voyez ici tout un tas de mutations. Ces souches, en fait, ne sont pas résistantes. Ce sont des mutations qui ne confèrent pas la résistance. Donc en l'occurrence, maintenant, c'est quelque chose qu'on a bien décrit, il y a eu d'autres publications sur le sujet, c'est des souches qu'on trouve en particulier au Congo, qui ont ce polymorphisme qui, en fait, ne confère pas la résistance. Mais c'est important parce que quand le test MTBDRSL a été développé, les fabricants ne le savaient pas, et dans leur test, ces mutations allumaient comme résistantes aux fluoroquinolones, et donc les souches étaient classées comme ultra-résistantes, alors qu'en fait, elles ne l'étaient pas. Donc vous voyez, mutation n'est pas toujours synonyme de résistance, et au fur et à mesure, on décrit les choses, on apprend que chaque mutation a un impact différent, et il y a bien sûr différents niveaux de résistance. Voilà, donc je voulais quand même finir sur une note un peu positive sur ces tests moléculaires, hein, donc il y a des limites à connaître, mais c'est quand même très utile. Donc vous voyez ici une souche ultra-résistante qu'on a eue relativement récemment au Centre National de Référence, et bien quasiment l'intégralité de ces résistances avait été prédite par des tests moléculaires. Ça veut dire que très rapidement, dans la semaine qui a suivi l'arrivée de cette souche au Centre National de Référence, on a su toutes les résistances et donc on a pu proposer un traitement adapté très rapidement. Donc quand même, ces diagnostics génotypiques, sur des cas un peu dramatiques comme celui-là, permettent de prendre des décisions de traitement extrêmement rapides. Voilà, et donc je vais finir sur cet arbre qui est un peu la façon dont on utilise les tests moléculaires. On commence par un gène RPOB pour savoir si la souche est multirésistante. Si elle ne l'est pas, traitement standard. S'il y a une mutation, on se pose la question d'ultra-résistance. Là, c'est les gènes JRA, JRB et gènes RRS. Mutation ultra-résistant, pas de mutation, traitement de multirésistance. Et puis, voilà, il y a tout un tas d'autres tests moléculaires qu'on va faire. Et puis, bien sûr, un antibiogramme phénotypique complet. Et au fur et à mesure que ces résultats arrivent, là, ce n'est pas très bien traduit, on passe de traitement probabiliste à traitement définitif via un système de concilium. Voilà, donc en conclusion finale, les performances de ces tests génotypiques qui sont vraiment formidables pour accélérer la résistance, vous avez compris qu'elles dépendent de la prévalence de la résistance, et ça, il faut bien le connaître dans son pays. À la fois, ils accélèrent le diagnostic, mais ils nous ont éclairé sur la complexité de la résistance, des nouveaux mécanismes de résistance, des mutations qui ne confèrent pas la résistance, des hauts et des bas niveaux de résistance. Et il y a actuellement un gros travail qui est en train d'être fait, mais qui reste à faire, sur, je dirais, l'impact de ces mutations, à la fois in vitro et in vivo, sur l'efficacité du traitement. Je vous remercie.
Merci beaucoup.